les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les élèves du micro-lycée, à savoir Enzo, Marie, Elisa, Jérôme et Donovan. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Union européenne. Et pour cela, nous recevons Monsieur Mikaël de la Maison de l'Europe. Bonjour, monsieur.
Bonsoir.
Je vous propose d'écouter un premier micro-trottoir.
À quoi correspond la journée du 9 mai?
Je sais. C'est pas la libération de quelque chose, je sais. Depuis, je sais rien du tout. Je pense que je l'ai appris à mes enfants, mais à 80 ans, j'ai tout oublié.
La journée du 9 mai, bah, je sais plus, parce que le 8 mai, déjà, c'est férié. Mais le 9, je sais plus, on reprend le travail, voilà. Pour vous, pas pour moi, je suis à la retraite.
Je sais pas du tout.
Je ne sais pas.
C'est la journée de l'Europe.
La journée du 9 mai, le 8 mai, je sais. Je sais, mais le 9 mai, c'est en rapport avec l'Union européenne, mais je sais plus que c'est la signature d'un accord important, mais je sais plus lequel.
Aucune idée, ça ne pense à rien du tout.
Ah oui, c'est ça, grande fois.
Le lendemain du 8, hein.
La journée du 9 mai. Oh,
je sais pas. Le 9 mai?
Oui.
C'est le lendemain du 8, ça?
Oui.
Et vous voulez que je vous parle du 9 mai?
Non, mais à quoi ça vous fait penser,
pas? Ah ben moi, ça me fait penser au 8 mai, moi.
D'accord.
C'est tout.
J'aimerais savoir, vous en pensez quoi de ces réponses?
Je ne suis pas très étonné que la date du 9 mai à Évreux n'évoque pas grand-chose. La date du 9 mai, pour le dire, c'est la fête de l'Europe, c'est la journée de l'Europe. Donc on fête l'Union européenne partout en Europe ce jour-là. Mais à Évreux, on le fête début juin. Donc les citoyens, en fait, ne font pas le lien entre le 9 mai et la fête de l'Europe instantanément.
Dommage.
Quelles sont vos missions à la Maison de l'Europe ?
Alors, d'abord, la Maison de l'Europe, c'est une association. Avec cette association, on a charge à faire découvrir l'Europe et l'Union européenne aux citoyens dans tous ses aspects. La culture, au niveau institutionnel, au niveau de la citoyenneté. Et en même temps, on est labellisé Europe Direct, donc on a un lien direct avec la Commission européenne, donc on a des missions spécifiques qu'on leur soumet chaque année et qui valident, comme ça ils peuvent contrôler notre activité. Et on a plusieurs activités dans la région, je pense qu'on aura le temps d'y revenir juste après.
Quels sont vos publics ?
Le public, c'est tout public. Là, vraiment, on intervient auprès d'enfants de 2 ans, 3 ans, jusqu'à des personnes âgées, vraiment dans les maisons de retraite. Vraiment, on essaie de parler à tout type de public sans faire de différence.
Comment on vous trouve ? Est-ce que ça arrive que certaines personnes font la démarche de venir eux-mêmes vers vous ?
Oui. Alors, au départ, on était hébergé au département de l'Eure, donc... c'est une grande institution, donc parfois le public a du mal à venir. Maintenant, on est plutôt dans le centre-ville d'Évreux. Et c'est beaucoup plus simple pour des jeunes ou des personnes qui passent juste devant notre agence et qui s'arrêtent et qui entrent pour nous demander ce qu'on fait, si on peut les aider sur l'information sur l'Union européenne. Parfois, on monte des projets avec des gens qui viennent juste, qui passent et qui regardent un peu nos locaux, ce qu'on fait. Et ils ont une idée, alors on les aide à monter des projets aussi pour l'Europe.
Vous nous disiez que c'était une association, donc qui vous finance et combien avez-vous de salariés ?
Alors au niveau des financements, il faut savoir que le label Europe Direct, en fait, nous confère 25 000 euros de financement de la Commission européenne. Il y a 52 centres en France, donc on fait partie de ce réseau-là. Et en tant que Maison de l'Europe, on est financé, le premier financeur, c'est la région Normandie. Ensuite, c'est la ville d'Évreux, l'agglomération d'Évreux, les portes de Normandie-Évreux. Et on a aussi des villes partenaires comme Louviers, Conches-en-Ouche, Pont-Audemer. Là, bientôt, on espère avoir un partenariat avec Verneuil-sur-Avre. Donc, tout le monde peut être notre partenaire et notre financeur. Si vous voulez qu'on parle de l'Europe dans votre ville, vous pouvez nous appeler, nous contacter.
D'accord. Et combien vous avez de salariés ?
On a, alors on est 2 salariés permanents, donc moi et mon collègue Yousri. Et ensuite, on a souvent des stagiaires qui viennent. On aime bien les stagiaires, donc on les accepte volontiers dans notre structure. C'est aussi une manière de parler d'Europe avec eux. Et bientôt, on espère avoir un service civique au mois de septembre.
Nous vous proposons d'écouter un micro-trottoir.
Ça marche.
À quoi sert l'Union européenne ?
L'Union européenne, pour que tous les gens d'Europe puissent... Enfin, vous me prenez de court, là. Hein. Moi, je vais avoir 80 balais, alors là, l'Union européenne, maintenant.
L'Union européenne aura beaucoup de choses. D'abord, ce à quoi les jeunes ne pensent plus, à maintenir la paix entre les pays européens. Ce que nous n'avons pas toujours connu, nous.
Ensuite, d'avoir un marché,
échanges,
un marché commun,
commercer,
mais malheureusement, il ne fonctionne pas parfaitement,
non.
Puisque les taxes sont différentes, les salaires sont différents, donc c'est le bas qui blesse.
Pour moi, l'Union européenne nous permet de voyager plus facilement. Moi, je suis encore dans les études, donc ça me permet, une fois que j'aurai mon diplôme, de pouvoir travailler dans la zone euro.
Ah, c'est de l'économie, ça. Eh bien, ça correspond un petit peu à ma réponse de tout à l'heure, c'est-à-dire que sur l'économie, on est mieux, plus fort que seul. La France seule aura du mal, beaucoup de mal à s'en sortir. Que l'Europe, globalement, est plus forte vis-à-vis des autres partenaires adverses, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, etc.
Pas grand-chose. Demandez ça aux cultivateurs, ils vont vous le dire.
À quoi sert l'Union européenne ? Nous défendre, je pense.
Je sais pas.
Bon, il y a la question d'avoir un projet commun sur l'ensemble des États qui forment l'Union européenne, à la fois au niveau des personnes, au niveau économique, c'est avoir les mêmes règles de marché, constituer une entité économique qui permet donc de lutter avec les grandes nations économiques. C'est essentiellement ces deux points-là pour moi.
Rassembler tout le monde.
Je crois que c'est pour remettre un petit peu d'ordre dans l'État, non, je pense.
Pour moi, c'est l'ouverture vers le monde, quoi, voilà.
Donc j'aimerais poser, suite à ce petit micro-trottoir, une question un peu directe. À quoi sert l'Union européenne ?
Alors dans ce micro-trottoir, je pense que les citoyens ont déjà répondu grandement à cette question et ont très bien répondu à la question. Certains ne savaient pas trop, évidemment, mais déjà, premièrement, il y a une dame qui en a parlé, ça sert à maintenir la paix. C'est la première des missions de l'Union européenne et c'est la plus importante. Ensuite, cette mission, elle est réussie depuis plus de 60 ans. L'Europe n'avait pas connu une période aussi longue de paix dans son histoire. Et en plus de la paix, évidemment, il y a des missions économiques. On en a parlé aussi, les citoyens lors du micro-total en ont parlé aussi. Donc c'est de créer un marché unique, un marché commun. Et avec ce marché-là, de permettre le développement de chaque pays de l'Union européenne. Et ensuite, ce n'est pas juste le développement économique, mais c'est l'économie qui va aussi aider à développer les valeurs européennes dans les pays qui adhéreront à l'Union européenne et aux droits fondamentaux qui nous rassemblent. Après, concrètement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Union européenne intervient. On parlait aussi de la mobilité. Il y a un jeune qui disait que pour lui, c'était une facilité, l'Union européenne, pour partir à l'étranger et travailler dans la zone euro. Pour les études, c'est pareil. Pour des jeunes qui ne sont pas en études et qui aimeraient partir, il y a aussi des dispositifs comme le service volontaire européen. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de domaines. On a parlé aussi de la défense des citoyens, de la sécurité, de nos frontières extérieures, de ce que l'Europe apporte aussi au quotidien pour des citoyens qui ont des projets pour le développement territorial. Donc l'Europe est là pour créer une unité. Donc on est une unité malgré nos diversités à chacun. Voilà.
D'accord. Donc nous avons visité le Parlementarium européen, la Commission européenne à Strasbourg, en Belgique. J'aimerais savoir, pourquoi y a-t-il un Parlement à Strasbourg et un aussi à Bruxelles ?
Alors, le siège du Parlement, il est à Strasbourg. Donc, le Parlement européen est à Strasbourg et à peu près une fois par mois, les députés se réunissent en plénière pour décider ensemble on va dire des lois, mais c'est pas des lois, mais on va dire des lois européennes. Et en fait, à Bruxelles, c'est surtout les groupes de travail, les commissions de travail qui vont se réunir et qui vont, parce que les autres institutions sont proches, et donc qui vont travailler, donc les députés viendront travailler les textes, les idées avec leurs collègues, plutôt à Bruxelles.
Il y a une loi qui va bientôt rentrer en vigueur, mi-juin, sur la taxe en dehors des frontières, sur les appels téléphoniques. Comment pouvez-vous nous en toucher deux mots ?
Alors, c'est en fait, l'Union européenne a décidé de supprimer, on appelle ça les frais de roaming, de les supprimer au niveau de l'Union européenne. Et donc, les opérateurs ne pourront plus surtaxer vos appels, les SMS et même Internet, l'utilisation d'Internet. Vous savez, aujourd'hui, quand vous partez à l'étranger et que vous voulez téléphoner ou utiliser votre smartphone, vous allez payer beaucoup trop cher cette utilisation. Et avec cette suppression des surcoûts du roaming, vous pourrez avoir un forfait normal en France. Vous appellerez, si vous appelez en Allemagne, et si vous êtes en Allemagne, vous utilisez la 4G ou je ne sais quoi, vous ne payez pas de frais, vous payez votre forfait basique. Il n'y aura pas de frais supplémentaires sur vos appels.
C'est plutôt cool. Oui. Comment cette décision a été-t-elle prise ?
Vous savez, on regarde un peu, l'Union européenne agit beaucoup dans le domaine du droit de la consommation et du droit des consommateurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abus sur cette question. Et surtout, on se rend compte que petit à petit, les frontières entre les États ne disparaissent pas, mais la relation avec nos voisins est plus simple. On passe une frontière sans qu'on s'en rende compte. Et donc, ça posait beaucoup de problèmes, par exemple, aux frontaliers qui, alors qu'ils téléphonaient en France, se retrouvaient avec des frais de roaming parce que c'était trop proche de la frontière. Ou vous aviez des personnes qui voyageaient et puis tout d'un coup, ils se retrouvaient avec des centaines d'euros de frais. Donc, l'Europe a dit stop. Et d'ailleurs, il y a un opérateur qui a commencé à faire... à supprimer les frais de roaming bien avant la mise en place. Ça se met en place, en fait, la loi se met en place le 15 juin, mais elle existe. Enfin, le travail sur cette loi existait depuis 2-3 ans. Et donc, petit à petit, les opérateurs se sont mis sur la même ligne de l'Union européenne.
D'accord. Quels sont les rôles respectifs du Parlement européen et de la Commission européenne ?
Alors... On va simplifier les choses et on va dire que la Commission européenne, en fait, donne les idées pour faire avancer l'Europe, pour l'intérêt général de tous les États membres, pas juste pour un pays ou pour un type de citoyen. Donc, la Commission européenne met sur la table des idées et à charge du Parlement de voter, de réfléchir à ces idées-là, de voir comment on peut les adapter sur les territoires. Mais le Parlement ne fait pas ça tout seul. Il y a aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne et parfois le Conseil européen avec les chefs d'État qui aussi interviennent dans la mise en place des normes européennes. Et donc, eux, ils votent plutôt les idées mises sur la table par la Commission. Et ensuite, la Commission, dès que c'est voté et accepté aussi par les États membres au niveau national, la Commission européenne se charge de contrôler l'application de ces lois.
D'accord. Une partie importante des électeurs de la présidentielle ont manifesté une certaine haine contre l'Union européenne. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors, on a vraiment vu, effectivement, une fracture sur ce sujet au niveau de l'Union européenne et il y a des citoyens qui se sentent oubliés par l'Union européenne. Et je dirais pas c'est une haine de l'Union européenne. On a pas, il y a une petite frange qui vraiment haït l'Union européenne, mais il y a une frange, surtout une grosse majorité, qui pense que l'Union européenne les a abandonnés. C'est plutôt une déception. Mais avec les résultats qu'on a eus, on a quand même un président qui est très pro-européen et pro, il veut une Europe active dans tous les domaines. Et il a une promesse, c'est qu'il souhaiterait que l'Union européenne agisse fortement aussi pour les citoyens et plus proche des citoyens. Donc on va voir si les promesses seront respectées.
Lors de notre micro-trottoir, nous avons aussi posé des questions aux personnes en leur demandant s'ils pouvaient changer quelque chose sur l'Union européenne. Et voilà leur réponse.
Si vous pouviez changer quelque chose dans l'Union européenne, ce serait quoi ?
Qu'il y ait moins de pays dans l'Union européenne.
Eh bien, tous les peuples s'entendent et puis voilà, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus tout ça, parce que j'étais petite, mais j'ai connu la guerre de 40. Et mon père était à la guerre et moi j'étais petite puisque je suis née en 37. Je vais avoir 80 ans et je vous assure que c'était pas marrant. Non, non. Moi qu'il n'y ait plus de guerre et que les peuples s'entendent et puis voilà. J'ai connu, quand j'étais petite, j'ai connu les Allemands, j'ai connu tout ça. J'ai habité la région parisienne, Arveil-Malmaison. Bah, nos parents étaient obligés de descendre dans les caves et puis tout ça entre les Allemands pour voir s'il n'y avait pas des trucs comme ça. Mais j'étais vraiment petite. Hein, parce que... Et puis après, je suis venue en Normandie puisque que ce soit mon père et ma mère étaient originaire de Normandie, bon, mais c'est vrai que moi je plains les gamins qui vivent la guerre et tout ça. Si seulement tout le monde pouvait s'entendre, ça serait bien. Ouais. Et puis que tous les enfants puissent aller à l'école, tous avoir tous un métier et tout ça.
Bah rien, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça.
D'accord. C'est annoncé déjà une disparité.
L'inégalité des traitements sur le plan des impôts, des charges sociales. Ils font qu'il y a une concurrence déloyale entre des pays qui ne devraient pas avoir lieu. Ça, oui.
Et qui permettrait d'améliorer d'ailleurs...
Certainement beaucoup d'autres choses.
Les revenus et de ces pays, justement, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que nous.
Ça ne soit pas nivelé par le bas, bien entendu.
Voilà. Oui. À remonter du haut vers le haut.
Oui. Tirer vers le haut les pays les moins favorisés.
Ils vont sortir de l'euro, moi, vraiment, ça me dérange.
D'accord.
Ah ouais.
Pour vous, c'est très important.
Ah oui. Parce que je suis sénégalaise et je ne veux pas vraiment qu'on sorte de l'euro.
Bah, permettre une politique de défense plus importante.
D'accord.
C'est ça. Parce qu'on a la politique économique, on l'a, mais plutôt une Europe vraiment fédérale.
D'accord.
Pas une Europe où chacun fait, chaque pays a ses propres défenses, mais une relation plus importante au niveau de la défense.
D'accord.
Pour pouvoir faire face aux deux grandes puissances qui sont les États-Unis et la Russie.
Il a supprimé, purement et simplement. Ouais, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais je ne sais pas.
Aucune idée.
Malheureusement, l'Europe n'est pas encore. C'est pas encore l'Europe, hein. Tous les pays ne sont pas unis. Hein. Et moi, mon plus grand souhait, ça serait que toute l'Europe fasse qu'un bloc vis-à-vis des autres grands pays. Voilà, si je pouvais contribuer à ça, je le ferais volontairement.
Un petit peu comme les États-Unis.
Bah oui, plus qu'on est grand, plus qu'on est fort. Hein.
Eh bien, il y a la question de l'Europe de la défense qui aujourd'hui n'existe pas. On voit bien que il n'y a pas de fédération et de projet commun en ce qui concerne la défense. Et également sur l'Europe est essentiellement économique, elle n'est pas tellement sociale, et donc ce qui semblerait important de travailler, c'est une harmonisation des règles sociales pour qu'on ait et que ce soit pas nivelé par le bas, mais plutôt nivelé par le haut, qu'on soit et que l'ensemble des États membres aient les mêmes règles en termes de lois sociales, en termes de rémunération minimale par rapport au SMIC, par rapport aux cotisations sociales, par rapport aux impôts sur les sociétés. C'est important d'avoir une harmonisation sur l'ensemble des États membres.
Vous en pensez quoi de ces réponses ?
Ce sont des réponses très intéressantes. Je pensais entendre plus de citoyens qui diraient « on supprime l'Europe » et je suis ravi d'entendre que les citoyens sont plutôt dans l'idée d'avoir plus d'Europe dans l'Union et plus d'Union dans l'Europe. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils demandent explicitement aux pays européens d'être solidaires entre eux. Donc ça, c'est très important. De travailler au niveau social, c'est une promesse aussi du nouveau président de la République. Donc, et aussi, c'était aussi intéressant de voir, Évreux étant une ville quand même qui accueille une base de l'armée, c'est intéressant de voir que les Ébroïciens demandent aussi plus de défense en Europe. Et c'est vrai, ce sont des chantiers sur lesquels les pays européens doivent travailler, la solidarité et la défense européenne. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde face à Donald Trump ou face à Vladimir Poutine, effectivement, les Européens sont de plus en plus convaincus qu'il faut créer une défense européenne. C'est clair. Et concernant l'envie de solidarité, je suis très ému d'entendre ces phrases parce que on dit souvent oui, la France contribue plus à l'Europe que l'Europe ne contribue à la France en termes d'argent. Et personne ne parle de solidarité. Si on contribue à l'Union européenne, c'est aussi parce que on souhaiterait que nos partenaires européens arrivent au même niveau économique que nous. Donc il est juste normal qu'on soit solidaire avec nos partenaires. Et ensuite, si on est au même niveau économique et social avec nos partenaires, évidemment que là, on pourrait créer des lois communes sur le SMIC, sur les droits sociaux, le nombre d'heures travaillées. Donc il faut d'abord être solidaire pour ensuite obtenir des résultats.
Que faites-vous pour améliorer l'image de l'Union européenne ?
Alors, on travaille au quotidien pour améliorer son image, évidemment. Et ce qu'on fait au quotidien, donc, c'est de l'information. Tous les citoyens peuvent nous demander tout type de questions sur l'Union européenne, même nous poser des questions pour nous dire qu'ils n'aiment pas l'Europe. On essaie aussi de répondre à ce type de questions-là. On fait le plus de forums possible pour aller au contact des citoyens. On organise aussi des rencontres spécifiques avec des conférenciers, on fait des débats. Ce qu'on fait aussi, c'est on met aussi les citoyens à la place, par exemple, des institutions ou des pays membres de l'Union européenne. On leur dit, allez-y, vous avez un problème, essayez de le régler entre vous, essayez de trouver un compromis. Donc, ils se mettent à la place d'un État et ils arrivent à comprendre un peu que c'est pas si facile que ça de prendre des décisions. Ensuite, on a un café anglais quasiment une fois par mois, les lundis après-midi, pour pratiquer la langue en anglais. On a des ateliers culturels. Il faut nous suivre sur notre site internet pour savoir quels sont les ateliers qu'on propose. On va dans les lycées, dans les collèges, dans les classes. Donc, on a une grande activité, une grosse activité au niveau sur le territoire et chez nos villes partenaires pour parler d'Europe. Et juste faire une petite pub, le 31 mai à 18h30, on sera à Louviers pour décoder l'Europe. Vous savez, l'Union européenne a lancé une initiative qui s'appelle Décodeur UE. Et ça sera l'occasion de nous poser ce type de questions et d'aller chercher les questions qui fâchent et de trouver des réponses qui rassemblent. Voilà.
D'accord. Joli discours.
J'espère que ce n'est pas que des discours et qu'on a aussi des actes qui ont un impact.
Parlons d'un autre sujet, la Grande-Bretagne, donc le Brexit. Comment a réagi l'Union européenne face au Brexit ?
Alors, juste pour dire, le Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La première des réactions, ça a été une tristesse, vraiment une très grande tristesse au niveau des pays européens, qu'on n'ait pas pu réussir à répondre au questionnement des citoyens anglais, des citoyens britanniques plutôt. Et ensuite... Par contre, on a aussi vu au niveau de la campagne pro-Brexit qu'il y avait beaucoup de mensonges et que les citoyens ont beaucoup cru à ces mensonges-là. Et ensuite, après les élections, après le référendum, ils se sont rendus compte qu'on leur mentait et que la réalité était tout autre. Maintenant, il y a une nouvelle phase, c'est une phase de négociation. La négociation va être dure avec les Britanniques. Pour eux aussi, ça va être dur de négocier entre eux du futur du Royaume-Uni aussi. Vous savez, l'Écosse, l'Irlande du Nord, Gibraltar même, il y a vraiment ça a recomposé le paysage politique au Royaume-Uni. Et les Européens, ils vont négocier pour que on ait un partenariat avec le Royaume-Uni, mais ça ne sera pas, ils seront pas aussi favorisés que lorsqu'ils étaient au sein de l'Union européenne.
Vous dites que c'est une tristesse pour l'Union européenne, mais la Grande-Bretagne n'a jamais vraiment fait partie de l'Union européenne. Ils n'ont pas eu l'euro ou...
Alors la Grande-Bretagne a toujours eu un pied dedans. On dit souvent qu'elle a eu un pied dedans, un pied dehors. Et certains disent même si elle est partie, bah, tant mieux. Par contre, le Royaume-Uni a toujours participé à toutes les activités de l'Union européenne, même pour l'euro, juste pour un exemple. Ils n'ont pas eu l'euro à la fin, mais ils ont participé à toutes les étapes de la mise en œuvre de cette monnaie, quasiment jusqu'au bout. Et à la dernière minute, ils ont décidé de ne pas l'adopter parce que pour une histoire de drapeau et de personnages sur les billets. Mais ils ont participé vraiment à tous les domaines et ils contribuaient pour l'avancée de l'Union européenne. C'est un grand pays, quand même, le Royaume-Uni. Et la perte d'un grand pays, c'est toujours triste. Surtout qu'on aurait pu aller dans beaucoup plus de domaines ensemble. Sur la défense, ils ont aussi une grande armée, par exemple. Donc c'est aussi une perte pour l'Union européenne.
Du coup, quelles sont les conséquences pour les Anglais et pour le reste de l'Union européenne ?
Alors, il y a souvent un discours alarmiste pour les Anglais. Ils sont partis de l'Europe et ils vont souffrir. Souvent, on dit ça, mais... ce sont quand même nos partenaires, on n'aimerait pas qu'ils souffrent. Cependant, on a remarqué dès le référendum que leur monnaie a été dévaluée et que leur économie a eu quand même un choc au niveau de tous les problèmes politiques qui étaient réglés par l'Union européenne, en fait, sont revenus à la surface. Par exemple, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, la question de la frontière ne se posait plus. Les gens vivaient. Ils ont vécu quand même une grande guerre entre eux. Et depuis quelques années, ça se calmait, même si c'était une entente un peu froide. Là, c'est reparti pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec cette frontière ? Pareil pour l'Écosse qui souhaite avoir son indépendance. Parce qu'elle est restée, les Écossais ont voté pour rester dans le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Pareil, Gibraltar, le rocher qui est en Espagne, qui est sur, pas en Espagne, mais au sud de l'Espagne. On se dit maintenant, les Espagnols disent que voilà, ce rocher doit revenir à l'Espagne. Le Royaume-Uni dit non. Il y a même un ministre qui a menacé l'Espagne de guerre. Donc, vous imaginez ce que ça peut créer comme souci politiquement et au niveau des territoires. C'était des problèmes qui étaient réglés par l'Union européenne. Aujourd'hui, maintenant, il faut que le Royaume-Uni fasse un effort pour régler tout ça. Et aussi, au niveau économique, ça crée des soucis. Il y avait un marché unique pour lequel ils pouvaient intervenir comme ils le souhaitaient. Aujourd'hui, ils sont obligés de trouver d'autres partenaires et de trouver un partenariat avec l'Union européenne. Sinon... ils vont perdre un marché de 500 millions d'habitants. Et concernant les conséquences pour les pays européens, certains disent on n'a pas de conséquences, c'est le Royaume-Uni qui est parti, tant mieux, comme je l'ai déjà dit. Sauf que non, on a aussi des conséquences. On perd quand même un partenaire important qui contribue au budget européen. Donc maintenant, il faut trouver un manque à gagner. Ensuite, on a beaucoup de jeunes qui souhaitaient partir en Erasmus au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui veulent aller tenter l'aventure au Royaume-Uni ? Donc il faut trouver un accord dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on fait des 200 000 Anglais qui vivent en France et des centaines de milliers qui vivent en Europe ? Ils pouvaient vivre en Europe parce que c'était l'Union européenne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Qu'est-ce qu'on fait des Français qui vivent à Londres ? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait des projets qu'on a créés en commun ? Le tunnel sous la Manche l'Eurostar, tout ça. Enfin, on a fait des choses communes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ça, vraiment, il y a des questions qui se posent. Si on veut créer une armée européenne, encore une fois, la défense européenne, En Europe, c'est la France qui a une armée aujourd'hui digne de ce nom. Il y avait le Royaume-Uni aussi, ils sont partis. Comment ? Voilà, c'est un manque à gagner encore une fois. Au niveau des échanges économiques, pareil, ça ne sera plus la même teneur dans les échanges, ça ne sera plus la même facilité avec les pays européens. Il y avait des pays européens qui étaient très liés au Royaume-Uni, comme la Pologne par exemple, qui était un partenaire privilégié. Comment on continue ce partenariat en dehors de l'Union européenne ? Voilà, plusieurs questions se posent. Il y avait 42 000 traités qui liaient le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Aujourd'hui, ça, c'est 42 000 problèmes à régler.
Vous pensez que ça va inciter d'autres pays à quitter l'Union européenne ?
Alors, on a eu peur, après, qu'il y ait un effet domino de la sortie du Royaume-Uni, sauf que ça a fait un tel choc aussi pour les citoyens européens qu'il y a eu un sursaut. Vous avez vu, entre le premier et le second tour des élections présidentielles, on a eu un sursaut et c'est le candidat pro-européen qui est arrivé en tête. Pareil aux Pays-Bas, c'est le parti pro-européen plutôt qui est arrivé en tête. On a eu peur aussi pour l'Autriche, où c'était les Verts avec quelqu'un d'extrême droite pour la présidentielle, et c'est plutôt les Verts qui ont gagné. Donc la question, en fait, je pense, aujourd'hui, ceux qui voulaient sortir de l'Europe ont perdu, donc elle ne se pose plus. Mais il faut répondre aux citoyens et être proche d'eux. C'est pas parce que les élections ont été gagnées que les citoyens sont toujours très pro-européens. Ils aiment l'Europe, mais ils veulent une Europe proche d'eux.
Que fait l'Union européenne de l'argent qu'elle a à disposition ?
Alors, le budget de l'Union européenne, c'est 1% du budget du PIB de tous les pays européens. Déjà, on établit ça, donc c'est un tout petit budget. Parfois, on nous en parle comme si c'est comme si c'était le trou de la Sécu et que ça posait des problèmes à tous les États, mais pas du tout, c'est 1%. Et dans ce budget-là, la grosse partie va pour la politique agricole commune. Donc, c'est de l'aide pour les agriculteurs. Et sachez que la France est le premier pays qui a le plus d'aide pour les agriculteurs. Ensuite, on a évidemment un budget pour le fonctionnement avec des fonctionnaires. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'au quotidien, l'Union européenne fonctionne. On a aussi un budget pour aider au développement territorial. En Normandie, vous allez avoir une partie de l'argent de l'Union européenne qui va revenir en France, en Normandie, par exemple, pour des projets spécifiques. À Évreux, vous avez plusieurs associations qui reçoivent des fonds européens. Vous avez d'autres fonds qui vont aider pour la culture. Vous avez des fonds qui vont aider pour la protection des frontières extérieures de l'Europe. Des fonds pour aider à la sécurité, des fonds qui viendront aider pour l'éducation. En tout cas, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'Union européenne intervient et l'argent n'est pas jeté par les fenêtres n'importe comment. Vous savez que l'Europe, elle contrôle jusqu'au dernier centime de l'argent qu'elle reçoit et qu'elle verse. Donc, tout est en plus vérifiable sur les sites de la Commission européenne. Si vous voulez vérifier chaque centime ou par chaque centime, vous pouvez le savoir très rapidement. Et puis, il y a aussi une partie pour la solidarité entre les États et la solidarité pour les États hors de l'Union européenne aussi.
D'accord. Et à qui vraiment ça profite le plus ? Comment dire ? Aux concitoyens ou aux États ?
Ça profite d'abord, évidemment, au développement des territoires, en premier lieu. Si vous avez une agriculture forte, si vous avez des associations actives, si vous avez plus d'emplois, si les jeunes travaillent, ça va aider chaque citoyen dans ce territoire. Donc ça profite vraiment aux citoyens. Et parfois, les citoyens, ils ne le savent pas. On ne sait pas que quand on fait une activité, quand vous allez à la mission locale par exemple, vous ne savez pas que c'est financé en partie aussi par l'Union européenne. Et alors qu'ils ont une plaque qui indique bien que c'est financé par l'Union européenne, mais voilà une utilité sur le territoire. Il y a un centre de formation qui s'appelle Parole Essence à Évreux, qui bénéficie aussi de fonds européens. Vous voyez, et c'est utile pour les citoyens qui voudraient, par exemple, pour Parole Essence, apprendre à manier l'informatique, aujourd'hui qui est indispensable pour la vie d'une personne qui cherche un travail. Donc cette association lui vient en aide grâce aussi à des fonds européens. Donc voilà, c'est parfois des petits budgets, des petites sommes pour aider les citoyens, ou c'est parfois des grosses sommes pour aider le développement des territoires et faire des routes, je sais pas, des ponts, aider à lancer des lignes de train. Voilà.
Est-ce qu'on a oublié de parler d'un détail important de l'Union européenne ?
On a fait un tour assez complet de ce qui intéresse les citoyens européens. Moi, je suis là évidemment pour défendre l'Europe, mais on est prêt à écouter tous les citoyens, même s'ils ne supportent pas l'Union européenne. Nous, on est là pour noter ce qu'ils nous disent, et ensuite on retransmet leurs demandes à la Commission européenne. Donc chaque parole est retransmise. Nous, on a un rapport mensuel à retransmettre à la Commission européenne. Donc même si vous n'aimez pas l'Europe, venez en parler avec nous. Ne restez pas dans le silence. Ne restez pas en vous disant « personne ne vient m'écouter ». Nous aussi, on se déplace, on vient vous écouter. Participez à nos débats et à nos événements. Comme ça, on pourra avoir une base de citoyens qui discutent de l'Union européenne, et on pourra transmettre à la Commission européenne et leur dire « voilà, sur le département d'Eure et sur la région Normandie, ce que pensent les citoyens, qu'est-ce que vous faites pour eux ?» Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est aussi pour vous qu'on est là, donc j'espère qu'on aura le plus de citoyens possible. Et juste, je voulais rappeler, parce que vous êtes des jeunes, et un programme, le programme Erasmus+, c'est le programme vraiment qui vous concerne dans la jeunesse. Et on parle souvent d'Erasmus au niveau des études, mais sachez que nous, on est un organisme d'envoi pour le service volontaire européen, et on peut permettre à des jeunes de partir faire une mission de volontariat entre 2 et 12 mois dans un pays de l'Union européenne hors de la France, et d'aider une association, et quasiment tout est pris en charge par l'Union européenne, vous n'avez rien à débourser. Donc c'est un moyen de partir découvrir l'Europe et parfois même le monde. Il y a aussi des pays qui participent à ce programme et qui ne sont pas européens, et de faire ça à moindre coût. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à pousser à notre porte.
Merci Mickaël d'avoir répondu à nos questions sur l'Union européenne. On vous rappelle que vous pouvez contacter la Maison de l'Europe au 02 32 35 23 89 ou vous y rendre à l'adresse 4 rue du Docteur Lerat à Évreux. Merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur principactif.net. C'était les élèves du micro-lycée Marie, Elisa, Donovan, Jérôme, Enzo et Clairvy. Et nous vous souhaitons une bonne journée.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même. Quelle importance accordez-vous à l'Union européenne ?
Eh bien, par rapport à la reconstruction après-guerre, l'importance de la reconstruction, la paix avec l'Allemagne, l'importance de construire la paix entre les différents États. Il y a également la libre circulation des biens et des personnes qui semble important, et puis de créer une entité économique qui puisse lutter à armes égales entre le front des Américains et l'Asie, d'une manière générale. Mais ce qui est vraiment important, c'est la stabilité, la paix. Hein. C'est vrai que je pense que si on n'avait pas eu l'Union européenne, en particulier par rapport aux pays baltes, on aurait eu une troisième guerre mondiale. Et donc je pense que c'est cette question-là qui est primordiale avant l'aspect économique. Et surtout la libre circulation des biens et des personnes, c'est important aussi pour moi.
D'accord. Aucune pour l'instant.
Bah, pas grand chose à vrai dire, on n'en parle pas vraiment.
On attend beaucoup de choses, mais je sais pas, en ce moment c'est pas la peine d'essayer de demander grand chose parce qu'il n'y en a rien. Ça va être pire en pire.
Je sais pas grand chose.
Bah, je trouve que c'est bien, voilà. C'est bon, c'est bien.
Primordial. Pour moi, question d'en sortir. Améliorer, mais pas en sortir. Ouais. Ah bah, améliorer, certainement.
Une grande importance.
D'accord. Bon, pour moi, je ne vois pas grand-chose.
c'est préférable d'avoir, d'être réunis ensemble au niveau de l'Europe, car à plusieurs on est plus fort. Et puis vis-à-vis disons, de la mondialisation, comme on dit maintenant, c'est quelque chose de très important pour moi.
D'accord.
Donc c'est préférable que les pays européens soient unis.
Aucune, je ne m'intéresse pas du tout à tout ce qui est politique, honnêtement, je ne pas...
D'accord. Je suis partie de la vieille génération, puis l'Union européenne, malheureusement, ça n'a pas été tout à fait ce qu'on avait escompté, hein. Mais bon...